4 heures pour avoir 2 films péraves et c'est même pas la version longue. Laissez-moi tranquille, je suis épuisé.
Allez,
tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord, aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Zack Snyder balance son dernier truc sur Netflix avec Rebel Moon partie 2, suite et fausse fin de la partie 1 sortie en décembre dernier. Est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'on prend du plaisir? Est-ce que Snyder est enfin de retour? Ah, tant de questions aux réponses négatives. À côté de ça, les reboots et suites à outrance continuent de faire du mal aux acteurs de l'industrie. Aujourd'hui, étude de cas avec le projet Blair Witch qui fait bien du bruit ces derniers jours. Dans la partie audio, on fera un retour sur les entrées ciné de la semaine. Et dans la partie vidéo, les sorties à ne pas rater dans les salles françaises. Et bien entendu, il y aura la question du public et une saga que j'ai découvert à la bourre, insaisissable. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, avec vous.
Eh bien, ça ne va pas être dans la poche.
Avant de commencer, merci aux gens qui suivent cette émission dans son format podcast ou dans sa version YouTube, quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif, du coup, n'hésitez pas à vous abonner à toutes les plateformes du monde, de l'univers, de la planète Terre jusqu'à la ceinture d'Orion. Il n'y a pas eu d'émission lundi parce qu'on a fait un gros tournage le week-end dernier, du coup j'étais complètement à la ramasse, bref, c'était compliqué de faire un autre tournage, mais de toute manière, je vais être très honnête avec vous, je vais m'autoriser maintenant de temps en temps à justement prendre du temps, si jamais je dis là, ok, il y a une émission qui saute, je vous expliquerai pourquoi, mais vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant à chaque fois sur Instagram, comme d'habitude. Et comme à chaque fois que je fais sauter une émission, j'ai gagné encore plein de followers sur Insta. Suivez-moi sur Insta naturellement, sans que j'ai besoin de partir et de revenir, etc. C'est un appel d'air très étrange. Bref, le pire podcast cinéma, la plupart du temps, c'est 3 fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin, pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma. Et on commence tout de suite avec les sujets du jour.
Respect, robustesse, Caius C+. Alors, les nouvelles sont bonnes?
Ah, ils sont pas de la dernière marée, les nouvelles.
Moi, je veux du féroce actualité.
Oh là là, on va parler de Zack Snyder, le sujet tabou avec ses fans ultra hardcore qui vont me sauter à la gorge dès que je vais dire le moindre truc négatif sur lui. Avant de commencer, je m'adresse aux fans de Zack Snyder. J'ai été dans votre camp. Vraiment, j'ai été avec vous les frères. Pendant des années, j'ai défendu le bonhomme, j'ai défendu tous ses films pour dire à quel point je trouvais que son cinéma était formidable. Je vais même être honnête, je pense que Zack Snyder, c'est... mon réalisateur réac préféré. Ouais, j'attaque un peu fort, mais quitte à les rendre fous, faisons-le maintenant. Gagnons du temps. Zack Snyder, c'est un vieux nerd réactionnaire de droite. Et je trouve justement que son cinéma est intéressant parce que c'est un vieux nerd réactionnaire de droite. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas un fond politique qui est intéressant à analyser vis-à-vis des histoires qu'il met en scène, Zack Snyder, ce serait juste un clipper qui met des ralentis partout. Non, bah ça va vers quelque chose de plus intéressant que ça. Il a plein d'inspirations qu'il a majoritairement mal digérées et qui retranscrit de la meilleure et de la pire manière, avec comme arme la caméra numérique. Je sais pas où j'avais dit ça, je crois que c'était dans ma vidéo sur The Flash, mais à mes yeux, Zack Snyder, c'est un type qui a grandi en regardant du cinéma de propagande de Leni Riefenstahl et qui s'est dit « Putain, j'adore l'esthétique, le problème c'est qu'à côté, il lisait un max de comics, et paf, ça a fait des chocs à pic. » Et pour vous dire à quel point je suis dans le camp des Snyderzous, jusqu'à il y a quelques années, j'aimais tous les films de Zack Snyder. Tous, sans exception. L'Armée des Morts, c'est un remake qui est vraiment sympa, assez généreux, avec des personnages vraiment horribles par instant, mais que Zack Snyder va quand même aimer et mettre en avant à l'image. Ensuite, il fait 300, qui est vraiment le culte du corps bien musclé, bien vénère, où t'as des vrais gars qui vont se taper dessus pour la gloire de la masculinité virile, mais il le fait avec des visuels assez dingues. Et après ça, il fait Watchmen, qui est un film dément, mais qui a absolument rien compris à ce qu'avait écrit Alan Moore à la base. C'est-à-dire, ça en reprend les codes visuels, ça essaye de les sublimer par le médium cinématographique, mais ça devient intéressant parce que c'est pas juste une adaptation stricto sensu du propos anarchiste de base. Et à côté de ça, j'adore le royaume de Gaoul, j'adore ce qu'il a fait chez DC. Voilà, qui de mieux que Snyder pour représenter la figure de demi-dieu de Superman ou le côté justement vigilante qu'a Batman dans son Batman v Superman. Batman v Superman en Director's Cut est d'ailleurs le meilleur film de super-héros DC jamais réalisé. Voilà, j'ai pas envie de débattre sur ça, je vous mets la vidéo où j'explique ça en détail en description, c'est ma vidéo sur The Flash, vous verrez. Putain, je regarde sa filmo, j'ai même eu de la sympathie pour son Army of the Dead sur Netflix, alors que c'était super laid. Même ça, ça m'a eu. Mais vous remarquerez, si vous connaissez bien la filmographie du bonhomme, que j'ai sauté un film au milieu. À savoir, le mal-aimé Sucker Punch. Parce que ce qui est passionnant avec Sucker Punch, c'est que c'est un film malade. C'est un film paradoxal, c'est-à-dire que c'est un long-métrage qui veut à la fois critiquer les fantasmes geeks, mais qui en même temps jouit de ses codes, va les mettre en avant dans sa mise en scène. C'est-à-dire que ça critique, mais ça prend son pied en même temps. Ça prend pas au sérieux ces vieux codes-là, et en même temps, ça veut les respecter dans une certaine forme d'imagerie. Et c'est ça qui me plaît dans Sucker Punch, justement. C'est cette approche quasi schizophrénique de son rapport adulte aux fantasmes geeks de la jeunesse, et qui en plus sublime sublimé par 2-3 scènes musicales que j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'aime Sucker Punch, parce qu'il y a ça à lire dedans. C'est quand même plus intéressant que s'il prenait ces codes-là, qu'il les traitait sans aucun recul et extrêmement premier degré comme un débile. Oh merde ! Ça, c'est Rebel Moon. Bon alors, Rebel Moon, dont la partie 2 vient de sortir sur Netflix, c'est un duo de films réalisés par Zack Snyder, sorte de space opéra Gerbotron 3000 bourré de références plus débiles les unes que les autres. Et j'avais pas parlé du premier film dans l'émission, je l'avais abordé juste rapidement dans la partie flop film, parce qu'il venait de sortir à ce moment-là et que c'était un peu plus raccord, donc j'avais pas donné en détail mon avis, mais pour rappel, j'avais pas aimé le premier. Non, c'est vraiment la première fois que je regarde un film de Snyder et que je me dis « Waouh, t'es passé de vieux nerd réac à vieux nerd ringard, c'est quand même dur. » Parce que Rebel Moon Part 1, c'est un film au montage imbitable qui enchaîne les séquences les unes derrière les autres sans que ça ait vraiment de conséquences. C'est un film de recrutement où à chaque fois, ils vont à un endroit, ils rencontrent un mec, ils lui font « Hey, tu veux rejoindre l'équipe, t'as 5 minutes avec ce mec ?» Et après, ce mec n'a plus aucune présence dans les 2 heures de film qui restent. Donc forcément, en termes d'attachement au personnage, c'était pas gagné. Et puis surtout, qu'est-ce que c'est moche ? C'est jamais réellement impressionnant, avec des nouvelles idées pompé ailleurs systématiquement. Le but était pas de créer un nouveau space opéra, le but était de tous les fusionner en un seul, réunir tous les délires geekos pour faire le film geekos ultime. Et du coup, c'est insupportable. Ça vomissait son univers plutôt que de créer du cinéma. Et c'est quand même un comble quand tu sais que c'est un type qui s'est fait connaître en dépeignant des univers de pop culture avec une patte esthétique très marquée. Donc voilà, t'avais ce premier film, fait avec une certaine sincérité, c'est sûr, mais qui était censé amener au deuxième et qui serait enfin la grosse bagarre où tout le monde se fout sur la gueule et où on peut enfin s'amuser avec la caméra. Et moi, j'étais partant. Au fond de moi, je me suis dit, arrête de vouloir raconter des trucs, fais juste tout péter non-stop pendant 2 heures, mets des ralentis partout et enfin, on va pouvoir s'amuser avec cette conclusion. Et bah non. Non, on s'amuse pas. Et puis pire que ça, Rebel Moon partie 2, c'est même pas une conclusion. We will teach you how to fight. That's impressive. Rebel Moon partie 2 de Scargiver suit donc notre joyeux groupe de rebelles qui vont essayer de défendre un tout petit village isolé face à une future invasion une invasion de l'Imperium. Pardon, j'ai confondu. Et premier problème, vous le savez, il a divisé sa saga en 2. Mais il s'est dit, mon film, je vais aussi le diviser en 2. Tu t'attends à ce que ça pète partout, mais lui, il se rend bien compte qu'il a pas du tout assez caractérisé ses personnages, qu'on s'en fout d'eux. Et donc, du coup, il te fait 1 heure de préparation à la bataille en mode, les ennemis arriveront dans 5 jours, nous avons 5 jours pour nous préparer, et nous, on a 5 jours pour nous emmerder. Donc, on va se taper un bon paquet de séquences au ralenti avec des paysans torse nu qui labourent la terre, ce qui lui permet, comme à chacun de ses films, d'insuffler un mini discours réac. C'est dans le contrat, je ne critique pas ça. Regardez ces hommes valeureux en sueur qui ramassent du blé, qui vivent suivant les traditions ancestrales et qui vont affronter ce méga empire technologique. Hein. La technologie, c'est notre ennemi. Hein. Est-ce que la technologie, c'est pas un peu des nazis ? Est-ce que les vrais racistes, c'est pas les antiracistes ? C'est un peu le propos du film. Mais encore une fois, c'est du Zack Snyder. Hein. Il fait ça à tous ses films. Je suis pas étonné. C'est juste que là, c'est fait avec, en parallèle, des flashbacks insupportables où t'as tous les personnages qui vont raconter leur vie pendant 1 heure. C'est affreux à regarder. La seule, à la limite, avec qui ça passe, c'est la comédienne Dunabé, parce que je l'aime énormément. Mais quand tu vois ce qu'il en fait après dans le reste du film... Ouais, superbe actrice, mais je ressens de la douleur pour elle. Tout ça sert juste à développer son univers qui encore une fois, pioche partout ailleurs, hein, des sabres laser jusqu'au sac sur la tête de 20th Century Boys. C'est un mash-up vomitif de mec qui veut tout mettre en même temps. C'est-à-dire, oui, des sabres laser, mais dans des tranchées. Il y a tellement de chara-design différents, on dirait une réunion de cosplayers à la Japan Expo, c'est n'importe quoi. Et c'est à ce moment-là que je ressors de mon chapeau Sucker Punch parce que je considère que Rebel Moon est l'aboutissement de Sucker Punch sans vision et ringard. L'époque a évolué. Le fantasme nerd ne peut pas exister de la même manière qu'à l'époque. Et puis surtout, il peut pas exister sans une forme d'autocritique que tu as complètement gommée ici. Rebel Moon se prend toujours trop au sérieux, avec des musiques plombantes, avec des chœurs, avec des violons qui sont filmés dans le champ. Alors que si tu prends un peu de recul, ça ressemble juste à une partie de jeu de rôle qui a mal tourné. Puis je reviens là-dessus, mais dans Sucker Punch, t'es attaché au personnage, tu les vois subir les pires trucs, et du coup, l'action devient cathartique comparée à tout le reste. Alors que dans le Rebel Moon, c'est des batailles de PNJ. Tout est accessoire. Même les ralentis si chers à Snyder deviennent une blague. Ils sont plus là pour amplifier l'action. Au contraire, ils réduisent son impact. Au moment où les coups sont portés, c'est le moment que tu ralentis. Alors qu'il faudrait faire l'inverse. T'es en train de saboter ton propre travail de mise en scène. On ralentit avant le coup, pas le coup. Sinon, c'est contre-productif. Sinon, les ralentis que t'es en train de faire, c'est juste des killcams sur Call of. La deuxième heure du film est meilleure que la première, hein, c'est sûr. Le type est largement plus à l'aise quand il fait de l'action que quand il raconte des trucs. Le problème, c'est que son action devient une sorte de liste à cocher. En mode, ok, alors tel personnage, 2 minutes de bravoure, c'est bon. Ok, personnage suivant, 2 minutes. Ok, c'est bon, personnage suivant. Puis le pire, c'est qu'elle recycle pas mal d'enjeux qui étaient déjà présents à la fin de la première partie de Rebel Moon. Alors que dans la 2, on t'a installé un nouveau méchant. Mais non, on peut pas le combattre tout de suite, faudra le combattre dans le 3. Oui, parce que mais il annonce un 3. Snyder croyait tellement que son truc allait fonctionner de ouf qu'il a teasé à la fin de son deuxième volet le fait qu'il y aurait un troisième. Mais qui a envie de voir ça? En termes de stats, même le 2 peine à décoller comparé au 1, parce que le 1, justement, c'était l'événement, mais les gens se le sont fadés depuis, ils ont vu à quoi ça ressemblait, ils ont pas envie de se taper le deuxième. Sauf que quand tu fais des recherches, tu te rends compte que le scénariste, il a prévu à la base 6 films. Jamais Netflix va vouloir financer ça. Non, c'est improbable. Et je sais que les fans hardcore vont me dire « Non mais attends, ça c'était la vision de 4 heures, elle est incomplète, il faut attendre en août quand il va sortir la version complète de 6 heures. » Il faut arrêter ça. Non, sans déconner, il faut arrêter ce délire. Parce que de 1, on juge un film sur ce qu'il est, et pas sur ce qu'il n'est pas. Et en l'état, les films Rebel Moon sortis sont giganazes. Et parce que de 2, si t'es pas foutu d'écrire une bonne histoire en 4 heures, t'es juste un mauvais auteur. Point. Tu passes 4 heures avec des personnages dont t'as absolument rien à foutre, alors qu'il y a des courts-métrages en 10 minutes qui te font monter les larmes, c'est quand même un comble. Faut arrêter de rêver, faut arrêter de fantasmer, faut juste accepter le fait que Snyder, il est devenu tout rincé et il fait des films à rallonge qui tiennent pas debout. Et c'est pas grave, c'est pas votre daron, c'est juste un gars qui est en train de se foutre ouvertement de votre gueule en vous disant « Non mais attendez de regarder ma Director's Cut !» Vous savez comment il la vend en annonçant qu'il y aura vachement plus de cul et de sang à l'intérieur. Putain, si c'est ça ton argument marketing pour que les gens continuent à regarder tes films, c'est d'une tristesse. Non merci Snyder. Le divorce est consommé et il est trop tard maintenant pour faire machine arrière. Je reverrai probablement Watchmen ou Sucker Punch avec nostalgie. Même Batman v Superman qui dans sa version cinéma se tenait largement plus que tes Rebel Moon. Mais avant de me faire mater 6 heures de Rebel Daube, ouais, va falloir se lever tôt. Allez, un petit sujet pour la deuxième actu. Ouf, je dis petit sujet, mais je vais encore prendre 3 plombes à le traiter. Ça me tient à cœur, je pense que c'est important d'en parler. Connaissez-vous le projet Blair Witch ou, de son autre nom, le meilleur film fan footage jamais réalisé? Réalisé en 99 par Daniel Myrick et Eduardo Sanchez, on suit 3 étudiants en cinéma qui se perdent en forêt pendant qu'ils font un reportage sur la sorcière de Blair, et mon dieu, la nuit, il y a du bruit autour de la tente, on est perdu, on est attaqué, est-ce qu'on va sortir de la forêt? Possiblement pas. Monument du cinéma horrifique, il a coûté en termes purs de production 60 000 $ et en a rapporté 248 millions. C'est exceptionnel comme score. Et pour les cinéphiles, ça leur a tous laissé un traumatisme profond. Je veux dire, la scène de fin, ce plan avec le gars de dos là, mais les frissons à chaque fois. C'est tellement malin et tellement simple en termes d'exécution, c'est fou. Suite à son succès, il y aura une suite pourrie en 2000, Blair Witch 2, qui va abandonner le found footage au profit de morceaux rock insipides que tu pouvais retrouver dans ton baladeur MP3. Et une suite reboot en 2016 par le tâcheron Adam Wingard, qui s'occupe actuellement des Godzilla vs Kong, et qui décide de faire exactement l'inverse du premier Blair Witch, à savoir absolument tout montrer. Quoi, le mystère? Non, on aime pas ça chez nous. Non, nous, ce qu'on aime, c'est les gros jumpscares putassiers pour faire des miniatures qui vont buzzer sur YouTube. On croyait donc la licence morte et enterrée pour de bon, mais vlati pas qu'une nouvelle est tombée il y a quelques jours. Un nouvel opus de Blair Witch est en cours de préparation. On a appris il y a quelques jours que Jason Blum, Monsieur Blumhouse, allait refaire équipe avec les producteurs du Blair Witch de 2016, un projet que Blum a très hâte de faire, conscient d'après ses propos que Paranormal Activity et tout le pognon qui s'est fait avec n'existerait pas sans Blair Witch. Et là, t'as 3 personnes qui ont débarqué dans les DM des producteurs pour leur dire « Les gars, je crois que vous vous foutez un tout petit peu de notre gueule là ». Et ces 3 personnes, c'est les 3 acteurs du premier film. Ever, Joshua et Michael, acteurs qui ont d'ailleurs donné leur nom au personnage du film, ont été plutôt mécontents de cette annonce de reboot, et ça a commencé par un post Facebook de Joshua qui a déclaré, je vous cite, « En vrai, on en est à 25 ans de manque de respect de la part des gens qui ont empoché la part du lion, jeu de mots, sur les bénéfices de notre travail, et c'est à la fois dégueulasse et sans aucune classe. » Pour comprendre pourquoi il dit ça, il faut résumer ce qu'a été la production de Blair Witch, à savoir que les 3 comédiens filmaient eux-mêmes les scènes, ont improvisé la quasi-totalité de leur ligne de dialogue et ont donné leur prénom au personnage du film. Oui, il y avait 2 réalisateurs pour les chapeauter, mais ils n'ont pas été simples comédiens. Ils ont fait tous les postes du film, de la technique à l'écriture. Et quand le film a été acheté pour être distribué, ils ont chacun empoché à l'époque 300 000 $. Puis le film a fait 248 millions au box-office. Ce qui fait donc que les gens qui ont quasi tout fait sur ce film, de l'acting jusqu'à l'écriture, etc., etc., ont touché au total 0,3% des bénéfices du film. Et depuis, à chaque nouveau film, ça réutilise leur nom, ça réutilise leurs images, mais ils n'ont jamais obtenu, et attention, ça va rappeler à certaines personnes l'époque de la grève, ils n'ont jamais obtenu de paiement résiduel. Du coup, ils se sont permis un petit texte à l'adresse de Lionsgate avec trois demandes à l'intérieur que je trouve franchement honnêtes. Petit 1, qu'on leur paye les paiements résiduels qui sont prévus aujourd'hui par les contrats de la SAG-AFTRA. Oui, parce que à l'époque, la SAG-AFTRA avait pas encore mis ça dans les contrats, mais maintenant que ça existe, bah il y a des thunes à donner à la fois rétroactivement mais aussi pour les futurs films. Petit 2, quand vous utilisez nos noms ou nos têtes, bah demandez-nous. Ce serait quand même sympa. Il y a des jouets avec nos tronches, il y a des nouveaux films, il y a même des escape rooms. Ce serait quand même sympa de nous consulter avant d'y foutre nos faces. Ils se permettent d'ailleurs un petit tacle en ajoutant « Vos deux suites se sont plantées de ouf, vous nous avez jamais consulté pour les faire alors qu'on a quasi tout fait sur le premier. Ça pourrait peut-être vous aider de nous consulter pour faire un bon film. » Tellement passif-agressif. J'adore. Et petit 3, ils demandent que soit créée une bourse spéciale nommée la bourse Blair Witch, ça paraît assez logique, oui, et que cette bourse soit de 60 000 $, soit le budget du premier film, afin qu'elle puisse aider de jeunes auteurs de genre à développer leur premier long métrage. Et ils précisent bien une bourse, pas un préachat de la part de Lionsgate qui pourra ensuite les couiller comme eux se sont fait couiller à l'époque. Et en vrai, je maintiens que je trouve ça honnête, voilà. Je trouve ça pas normal que sur un film qui a fait 240 millions de bénéfices, les gens qui ont quasi tout fait sur le long métrage n'aient même pas vu 1%, à eux trois réunis, ils ont pas vu 1% de cet argent. Ouais, mais fallait pas se faire avoir par les contrats de l'époque. Oui, mais justement, autre époque, autre contrat, personne pouvait savoir que le film allait avoir un tel score. C'était fait par trois gars dans un champ. C'est tellement facile à chaque fois de citer des contrats périmés d'il y a 25 ans pour justifier que t'as des jeunes qui se sont fait baiser à l'époque. Je trouve ça anormal, en fait. C'est pas parce qu'à l'époque, il y avait ces contrats que la situation est pas injuste et anormale. Qui sait ce qui se passera? En tout cas, pour l'instant, Lionsgate a refusé de répondre. Affaire à suivre. Hey, si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version podcast de l'émission. En effet, dans la version vidéo, on est en train de parler des sorties ciné à ne pas rater en salle cette semaine. Mais nous, de notre côté, on va se faire un petit point sur le box-office. Alors, qu'est-ce qui marche dans les salles de cinéma? Bon, globalement, on n'a toujours pas de gros films porteurs. C'est mieux que la semaine dernière, mais en vrai, ça patine encore un peu dans la semoule. Si on prend juste les nouveautés, Civil War, je vous rappelle que Civil War d'Alex Garland est absolument génial. Civil War fait 233 000 entrées sur 557 copies. Ce qui est plutôt honnête, vraiment. C'est un sujet pas simple. Et avec un tel sujet, je trouve que le score est assez honnête. En deuxième position, il y a la comédie avec Ahmed Silla et Hakim Jemili, Ici et là-bas, qui fait 125 000 entrées sur 436 copies. C'est pas dingue, c'est dans la moyenne des comédies françaises un peu basse. Pour vous donner un exemple, c'est en dessous de Nous les le roi en deuxième semaine. Donc c'est un démarrage, ouais, un peu moyennasse même pour une comédie française. En troisième position, il y a Borgo qui fait 78 000 entrées sur 233 copies, ce qui est pas mal. Vraiment, c'est pas mal, il a pas une énorme distrib, mais bon, c'est pas un score à tomber par terre non plus. Mais franchement, c'est pas mal. Il fait un poil plus, par exemple, que le film d'animation japonais Spy Family, qui lui fait 72 000 entrées sur 297 copies. Il a 60 copies en plus et il fait moins d'entrées. Non, pas mal. Vraiment pas mal, Borgo. La vraie plantade de la semaine, ma vraie tristesse, un film dont je vous avais parlé en début de semaine dernière, c'est Monkey Man avec et de Dev Patel, film d'action en Inde, qui fait 42 000 entrées sur 250 copies. C'est chaud, c'est très chaud. C'est la douche froide pour Universal, mais tu sens qu'ils avaient pas non plus fait une promo de dingue autour du film. Ils sont ultra focus sur leur prochaine sortie qui est The Fall Guy avec Ryan Gosling et Emily Blunt et qui arrive déjà début mai, donc ça va être très rapide. Ils ont préféré mettre des moyens dans la promo de celui-là plutôt que dans la promo de Monkey Man et du coup ça se ressent et puis ça va se ressentir encore plus dans les semaines à venir parce que Monkey Man est déjà sorti en VOD aux US, donc il va y avoir du téléchargement illégal. Bref, la joie. Je me permets d'ajouter, je vous avais parlé la semaine dernière de petits films et donc ces petits films ont fait des petits scores. Riddle of Fire a fait 7600 entrées sur 47 copies et Upless a fait 5000 entrées sur 40 copies. Voilà, peu distribué, peu vu, va pas rester longtemps en salle si vous voulez les voir, c'est maintenant ou jamais. Pour les films sortis les semaines précédentes, en première position, il y a toujours Kung Fu Panda 4 qui fait plus 250 000 entrées pour un total à 1,7 million. Voilà, il va tranquillement aller vers ses 2 millions. SOS Fantôme, la menace de glace, fait plus 185 000 entrées pour atteindre un quasi 500 000. Il fera probablement mieux que le premier, mais le million, ça va toujours être compliqué. Et Godzilla X Kong fait plus 160 000 entrées pour un total à 847 000. Lui, par contre, le million, il va aller le chercher. Le film qui obtient un joli succès aussi, je le citais juste avant, c'est Nous les Leroy, parce que Nous les Leroy atteint 332 000 entrées. Il devrait toucher les 500 000 sans problème, et pour un premier film, putain, c'est quand même vraiment pas mal. La vraie surprise de la semaine, l'énorme remontada, c'est Du Cobu. Oui, parce que je vous en parlais la semaine dernière en vous disant que ça allait être un plantage, qu'elle n'allait pas atteindre le million alors que tous les autres avaient atteint le million, mais il semblerait que j'ai eu tort. Parce que contre toute attente, le film en deuxième semaine fait plus 52%. Ça n'arrive jamais. Il fait plus 154 000 entrées pour un total à 549. Et il peut maintenant largement prétendre aux millions des sorties précédentes. Et ça me fume que ce film ait un succès record comme ça, parce que le film se fait défoncer partout. Vraiment, tout le monde dit que le film est nul à chier. Mais bon, c'est un film pour enfants, et t'as un public pas averti qui emmène leur gamin le voir. Un pote me disait là-dessus, ouais, en fait, ces films, t'auras beau dire que c'est pourri, qu'il faut pas aller voir ce genre de merde, blablabla, c'est peine perdue. Parce que t'as un public qui a juste pas la même grille de lecture du cinéma, et qui va aller voir ce genre de truc quoi qu'il arrive. C'est un constat un peu défaitiste, hein, mais il y a un peu de vrai là-dedans. C'est majoritairement des gens qui veulent canaliser leur gosse pendant 2 heures et qui se disent « Bon, bah allez, c'est une solution de facilité, on les emmène voir ça. » Et ouais, c'est naze, mais... qu'est-ce que ça marche ? Misère. Bref, c'était le box-office de ces derniers jours. On se retrouve la semaine prochaine pour en parler plus en détail. Et pour l'heure, on avance.
Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet.
Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram où je vous dis hey, « vous avez une question sur l'actualité ?» Et si vous en avez une, eh ben, elle peut passer dans l'émission si jamais j'ai une réponse. Le plus simple, c'est d'aller me suivre sur Instagram. Le lien est en description. Vous savez très bien faire, me suivre sur Instagram quand je suis pas là. Je suis là, suivez-moi quand même. Et aujourd'hui, la question est pas vraiment d'actualité, mais j'avais envie d'en parler quand même. C'est Oukel Aoun qui demande « plus de critiques groupées des films du mois, est-ce que tu as abandonné l'idée ?» Le problème, c'est que j'en ai surtout pas assez. Là, ça va vraiment parler de l'émission, mais avant, en chaque début de mois, je faisais une sorte de gros segment où je vous parlais de tous les films que j'avais pas pu aborder au cours des 30 derniers jours d'émission et que j'avais vu et que, bah mince, je savais pas où les foutre, je les foutais là. Le problème, c'est que maintenant, quasi tous les films que je vois, j'en parle dans l'émission. C'est-à-dire même, je me suis bouffé 30 films Godzilla, j'ai réussi à quasi tous les aborder dans l'émission. Je suis tellement débordé que tous les films que je vois, j'essaye de les caler ici. Et du coup, bah, il en reste assez peu à côté pour faire un débrief à la fin du mois. Là, je viens de checker, hein, entre mars et avril, j'ai vu un peu plus d'une cinquantaine de films et il y en a que 6 dont j'ai pas parlé dans l'émission. Ça fait maigre 6. Mais vous savez quoi? Je vais faire le bilan maintenant. On va se faire un speedrun. C'est quoi les 6 films dont j'ai pas parlé? Tout d'abord, j'ai découvert le film d'horreur The Strangers, sorti en 2008, et sa suite reboot The Strangers Pray at Night. Je les ai vus parce qu'il y a un nouveau qui sort fin mai, qui d'ailleurs, je comprends pas, les deux premiers sont sortis sous le nom The Strangers en France, et là, en France, ils ont renommé ça Les Intrus. Je comprends pas. J'ai trouvé le premier plutôt sympa, même s'il a de sévères problèmes de rythme, et tu sens que Liv Tyler, vu son statut de star, a refusé la vraie fin cruelle qui était prévue à l'origine. C'est un peu dommage. Et je fais partie des rares qui ont préféré le deuxième au premier. Oui, parce que je le trouve plus fun, je le trouve plus efficace. C'est vraiment du pur cinéma d'horreur du dimanche soir. Il y a des scènes brutales vraiment bien foutues, ça permet d'approfondir le lore sous fond en plus de colorimétrie et bande originale de Synthwave. Non, je trouve que le deuxième marche mieux que le premier. J'ai vu aussi la série Outro sur Netflix. J'adore les séries True Crime, avec les témoignages, les avocats, etc. J'avais suivi de ouf celle sur le petit Grégory, celle sur Monique Olivier. Et je me demande si c'est pas la plus réussie de toutes, qui joue continuellement sur l'ambiguïté de cette affaire, avec le témoignage en plus du juge Burgot, qui est aussi contradictoire que fascinant. Est-ce que ça a orienté? Probablement, surtout vu la surprésence d'avocats dans le documentaire. Mais ça reste quand même une analyse de dingue d'un fait divers de l'époque. Et voilà, je mate assez peu de séries, celle-là je l'ai dévorée. Ensuite, j'ai vu French Girl, une comédie où Zach Braff vit à New York avec sa meuf qui est québécoise, et elle doit rentrer dans son Québec natal pour passer un entretien de chef cuistot auprès de son ex-copine Vanessa Hudgens. C'est vraiment de la comédie romantique gentillette, pas exceptionnelle, mais je crois que je suis un peu biaisé parce qu'à la fois je trouve ça marrant tous les parallèles entre les New-Yorkais et les Québécois, et puis il y a Zach Braff dedans, je suis un immense fan de Scrubs, donc voilà, ça me parle forcément un peu. Sinon, j'ai vu le documentaire Bray Wyatt Becoming Immortal, un documentaire sur ce catcheur de la WWE qui est malheureusement décédé l'année dernière à l'âge de 36 ans et qui revient sur toute sa carrière et aussi son univers qui était très horrifique et absolument incroyable. J'adorais ce type, c'était sûrement mon performeur préféré. Et oui, ok, c'est un documentaire extrêmement niche, avec des témoignages et tout. C'est très à l'américaine, sortez les violons, ça peut vraiment laisser dehors. Mais bon, ça marche sur moi parce que le type avait le monde entier entre ses mains. Voilà, et ça m'a brisé le cœur. Et enfin, j'ai vu le film Necronomicon, un film à sketch sorti en 93 avec 3 réalisateurs, dont le premier c'est Christophe Gans. C'est la première vraie réalisation de Christophe Gans avant qu'il fasse Craig Freeman, Le Pacte des Loups, Silent Hill. Mais il y a aussi à l'arrêt Brian Yuzna, qui est le papa des suites de Réanimateur. Mais aussi, et je l'ai noté, Shusuke Kaneko, qui est le réalisateur japonais des Gamera des années 90 et aussi du meilleur Godzilla de cette époque. Et comme tous les films à sketch de l'époque, c'est aléatoire, quoi. Voilà, c'est-à-dire que celui de Christophe Gans a une DA qui est absolument incroyable, mais ça tient pas beaucoup la route. Celui de Kaneko est une plantade immense qui tient juste pour ses 15 dernières secondes et encore, je trouve que ça marche pas du tout, je comprends pas ce qu'il allait foutre là-dedans. Mais celui de Yuzna sauve un peu le tout, c'est lui qui filme le fil rouge, c'est lui qui chapeaute le projet, qui s'est gardé le meilleur pour lui, tu m'étonnes. Et voilà, c'était la compile des films dont j'avais pas déjà parlé dans l'émission, forcément, bah, c'est plus court que d'habitude, j'avais pas de matière à en faire un vrai sujet. Ah non, mais attends, je crois qu'il me reste encore 2 films dans ma liste. C'est quoi ça?
Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran. Pas pour la petite lucarne.
Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque fin d'émission, je vous parle d'un film que j'ai apprécié ou non. Et dans la prochaine émission, celle de vendredi, c'est pas moi qui parle d'un film, non, c'est vous. Du coup, n'hésitez pas à envoyer des audios par mail à l'adresse lepirepodcastciné@gmail.com pour pouvoir passer dans l'émission. Un audio d'environ 3 minutes, vous parler du film que vous voulez. Tant qu'il vous parle, tant qu'il vous plaît ou non, tant que vous avez des choses à dire dessus, j'écoute vos audios et ils passeront ensuite dans l'émission. Et aujourd'hui, moi-même, je parle d'un film qui n'est pas tout récent, mais sur lequel j'avais envie de revenir parce que je les ai découverts récemment pour une raison particulière. La saga des Insaisissables.
Because the more you think you see, the easier it'll be to fool you.
La raison pour laquelle je vous parle d'Insaisissables, No You See Me en VO, c'est que voilà, comme je le précisais, je ne les avais jamais vus avant il y a quelques jours. Mais aussi parce que vient d'être annoncé que 8 ans après le second opus, un troisième film allait être réalisé, cette fois-ci par Ruben Fleischer, qui est le réalisateur de Venom, de Zombieland, de Uncharted, de Gangster Squad, un réalisateur donc à la carrière aléatoire. Voilà, je crois que le mot aléatoire a rarement été aussi propice que là. Mais du coup, ça m'a intrigué. Et je me suis demandé, qu'est-ce qui valent ces deux gros blockbusters de voleurs magiciens? Qu'est-ce que ça vaut? C'est pas bien. Non mais attendez, j'ai des standards de base, je vous parle de cinéma 3 fois par semaine, voilà. D'après les standards, d'après tout ce que je vous raconte sur le cinéma chaque semaine, honnêtement, c'est pas des bons films. Mais, est-ce que j'ai pris du plaisir devant? Ça, c'est autre chose. Et la réponse est oui. Surtout sur le premier. Je vais m'expliquer. Le premier Insaisissable est un film réalisé par le français Louis Leterrier, un réalisateur qui lui aussi a une carrière aléatoire, dirons-nous, sur le continent américain, mais à qui on ne peut pas enlever un certain sens de l'efficacité dans la mise en scène. Il a compris certains codes, une manière de réfléchir l'action très à l'américaine, et du coup il te balance ça à l'intérieur, et c'est un truc qu'on peut mettre au crédit du premier film, c'est déjà que ça a un rythme de dingue. Le problème, c'est que ce rythme est au service d'une histoire qui est d'une connerie abyssale. Mais c'est tellement bête, mon dieu! Tu parles de l'histoire de quatre magiciens des rues random qui vont devenir des Robin des Bois, grand spectacle avec des moyens, quatre magiciens random d'ailleurs, qui sont, je pense, de véritables sorciers. Non, parce qu'on a beau t'expliquer les tours qu'il fait, pour moi, c'est de la sorcellerie. Et tu vas de twist en twist avec des flics, avec des traîtres qui sont pas vraiment des traîtres, il y a José Garcia qui passe une tête. Mais du coup, pour moi, ça devient vraiment plaisant parce que le film est jamais au service d'un quelconque sens, d'une quelconque cohérence. Non, le seul but du film, c'est de t'en mettre plein la vue. Et pour ça, il lâche les chiens en permanence. Donc c'est débile, et en même temps, tu sens qu'il y a une vraie conscience de vouloir prendre les petits tours de magie faits à la main et les transformer en quelque chose de plus grand, quelque chose de cinéma. Je pense notamment à la boîte avec un miroir. Voilà, comment tu prends un tout petit concept et tu le pousses plus loin. Et j'adore les magiciens, j'adore. Et voilà, il y a un lien très fort à l'enfance et au fait d'être émerveillé, de pas comprendre un tour. Ça marche sur moi, ça marche sur moi. Gros plaisir coupable, le premier Insaisissable. C'est vraiment très con. Pas toujours très bien foutu, mais je m'amuse énormément. Puis le fait que Jesse Eisenberg, il joue un rebelle qui est trop stylé et tout, alors que dans la vraie vie, il est juste névrosé. Je trouve ça formidable. Et quand on arrive au deuxième film, je me marre un peu moins. T'es content de retrouver les personnages du premier, mais ils ont tellement voulu pousser les potards plus loin que sur le premier opus que bah, là, ça devient juste aberrant à regarder. Les magiciens se téléportent, contrôlent les éléments, font des pranks qui sont impossibles à réaliser si jamais tu prédis pas l'avenir. C'est vraiment aberrant, voilà, c'est le mot. Il y a des idées qui me plaisent à l'intérieur, notamment le fait que le bad guy soit joué par Daniel Radcliffe, voilà, un mec qui combat des magiciens alors que c'est le magicien ultime, c'est gaulerie. Mais les personnages passent un peu au second plan, et notamment le personnage de Mark Ruffalo, qui est censé quand même avoir une certaine stature et qu'il a se perd dans ce qu'il est censé produire, dans les différents rebondissements du truc, c'est galère. Mais encore une fois, la réalisation, il y a un mec que j'aime pas mal, un mec qui s'appelle John Chu. John Chu, c'est celui qui a fait Sexy Dance 3, qui a fait aussi, attends, je m'étais noté, bah oui, il a fait Indie Heights, voilà, j'aime bien les films de John Chu, j'ai aucune honte. Vraiment, je considère que John Chu, c'est un bon metteur en scène, tu vois comment il représente chaque personnage à travers leur environnement dans sa mise en scène, dans Indie Heights par exemple, c'est plaisant, c'est vraiment plaisant. Et là, bah tu sens qu'il s'amuse, le problème c'est qu'il est pas aidé par un scénario qui est beaucoup plus bordélique que le premier. C'est-à-dire là où le premier, où on allait de show en show, il y avait une trajectoire bien précise avec laquelle t'avançais, là c'est quand même beaucoup plus bordélique. Délique. Puis t'as des trucs tellement random, genre Woody Harrelson qui a un frère jumeau, ça n'a aucun sens. Mais j'ai pas détesté. Voilà, je crois que j'ai découvert de vrais plaisirs coupables à travers les films Insaisissables. Et j'en suis le premier étonné. Je crois que c'est comme les tours de magie, en fait. Même quand c'est un peu pété, bah, tu restes émerveillé parce que t'as quand même la petite surprise à la fin. Et puis même, concernant le film, j'ai l'impression d'être dans l'envers du décor. Même quand ça a pas de sens, j'ai l'impression de regarder à la fois le film et son making-of, ce qui est plutôt passionnant. Et du coup, bah, j'ai envie de voir le 3. Voilà, le tour de magie m'a eu. Faut assumer.
Look closely, because the closer you think you are, the less you'll actually see.
C'est ainsi que se termine cette émission du pire podcast cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque-là. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien chez vous et tout ce qui s'ensuit. Moi, je suis extrêmement fatigué pour un millier de raisons dont on parlera dans quelques mois, nous verrons cela. On va essayer de faire en sorte que l'émission continue de la meilleure manière possible en attendant. Et sinon, on se retrouve vendredi. Voilà, pour l'instant, c'est terminé. Si vous en voulez encore...
Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là.
Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.